Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode d'Eleven Insiders. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver aujourd'hui. Comment tu vas, Jérémy?
On est en forme, hein?
Oh, on est super en forme. Et t'as vu où on est?
Dans la loge Wilfried Van Moor.
Franchement.
Trois fois soulier d'or.
Exactement, ouais. Exactement.
66, 69 et 70.
Heureusement que t'es là pour le dire, pour le préciser.
Ouais,
les infos, c'est ça.
C'est assez sympa.
C'est vrai qu'on est bien accueillis ici au Standard avec notre invité du jour, Pierre Locht. Comment allez-vous?
Ça va très bien, merci.
Merci beaucoup de nous accueillir chez vous.
Avec un grand plaisir, vous êtes les bienvenus.
Avec pas trop de cernes, Pierre?
Bon, c'est vous qui le dites, ça.
Non, franchement, mais non, c'est vrai. Mais d'ailleurs, justement, c'est ma première question. Comment on se sent à un lendemain de clôture de Mercato?
C'est toujours, en effet, un sentiment un peu particulier, le lendemain d'eux, puisque c'est vrai que c'est toujours intense les dernières heures, même si chaque fois on se dit on va essayer que ce soit moins le cas, d'anticiper. Mais OK, la dynamique du marché est comme ça, que beaucoup de choses peuvent se débloquer ou se débloquent dans les dernières heures. On le sait, donc c'est vrai que c'est toujours un peu particulier, mais voilà, le sentiment est positif et bon ce matin.
Donc là, vous êtes serein, il n'y a pas de frustration, vous êtes plutôt serein.
Tout à fait, non, on est très serein, on est content de ce qui s'est fait dans l'ensemble. Ça aurait pu être mieux, c'est vrai, il y aurait pu avoir encore l'une ou l'autre chose, mais OK, on avait tenu compte de ce scénario-là et on est content de ce avec quoi on va démarrer là. Deuxième partie de saison, en tout cas la suite de la saison.
Et comment il a été réfléchi ce mercato? Quel a été le déroulé?
Le déroulé, c'était tout simplement d'avoir une analyse de notre noyau et des différents mouvements possibles et d'essayer de les anticiper. Donc on savait qu'il y avait une série de joueurs, forcément, on ne va pas en revenir, peut-être qu'on y reviendra.
On y reviendra.
Sur les cas
évidemment,
il faut.
de joueurs qui étaient forcément sur le départ. D'autres joueurs aussi qui, pour des raisons diverses, allaient probablement nous quitter. Et puis on a regardé sur les renforts potentiels en sachant, et c'était vraiment la théorie de base, qu'on est content de ce que montre l'équipe pour le moment, qu'on est convaincu que cette équipe a déjà montré plus que ce qu'on attendait d'elle et est encore capable de montrer de belles choses dans le futur. Donc voilà, c'était vraiment la volonté de ne pas chambouler. Et au final, on a choisi pour de la stabilité.
Ça veut dire que la note du mercato, selon le CIO, c'est une note sur 10. Vous mettez combien pour le mercato du Standard?
Je mettrais un bon 8, honnêtement, parce que, de manière générale, je pense que le mercato de janvier, c'est très particulier. Si je repense même au mercato de janvier dernier, voilà, on a essayé de faire pas mal de mouvements, et au final, est-ce que ça a eu le résultat escompté? Pas vraiment. Donc voilà, je pense que le signal envoyé à l'équipe est clair, c'est qu'on compte sur ces joueurs-là, sur cette équipe-là, et j'aime bien ce signal-là. Et cette donnée de stabilité qui a souvent manqué au Standard et qui, je pense, peut faire la différence.
Par rapport à ça, justement, dans les dernières heures du mercato, tout le monde cherchait encore certains profils. Vous dites que vous êtes satisfait. On attendait quand même peut-être un attaquant rapide, éventuellement un profil box-to-box, mais c'était surtout l'attaquant qui était visé. Il n'y a personne qui est arrivé. Est-ce que ça, d'une certaine manière, ça inquiète le CEO que vous êtes?
Non, on n'inquiète pas du tout. C'est le fait qu'il n'y ait pas d'attaquant qui arrive était un scénario avec lequel on tenait compte. Maintenant, c'est vrai, c'est pas un secret qu'on regardait pour cette position-là, qu'on a travaillé sur certaines pistes depuis plusieurs semaines. Mais voilà, que ces pistes-là n'ont pas pu aboutir. Parfois, ça se débloque dans les dernières heures. Ici, ça n'a pas été le cas cette fois-ci. On savait que c'était une possibilité. Mais voilà, on n'a pas voulu, et ça c'est très clair, on n'a pas voulu bouger sur d'autres pistes qui arrivaient dans les derniers jours ou dans les dernières heures. Ça, c'est pas la manière de travailler. On était tout à fait d'accord aussi avec le staff qu'on ne ferait pas ça. Donc, soit c'était l'attaquant qu'on recherchait qui pouvait apporter quelque chose de différent peut-être à ce qu'on a dans le noyau, soit on allait avec les gars qu'on a. Et aujourd'hui, c'est vers cette option-là qu'on va.
Et pourquoi ça n'a pas abouti?
Parce que la situation n'a pas pu se débloquer pour diverses raisons. Comme je vous dis, il y avait plusieurs pistes, mais voilà, pour des raisons diverses, elles n'ont pas pu aboutir, ou pas aux conditions auxquelles nous on était prêts à faire ces opérations-là. Et voilà, on savait que c'était une possibilité. C'est une possibilité qui a grandi au fil des jours et au fil des heures, dont on savait que c'était de plus en plus probable. Mais de nouveau, le dernier jour, on a reçu beaucoup d'appels d'agents qui nous promettaient le joueur qui allait nous qualifier en play-off 1, etc., etc., puisque tout le monde savait qu'on cherchait un attaquant. Mais ça, on était très clair qu'on ne voulait pas se lancer dans quelque chose de dernière minute.
C'était quoi la piste que vous aviez en tête et que vous aviez absolument envie de faire, Pierre?
Non, c'était en effet un attaquant qui pouvait potentiellement apporter d'autres choses ou un profil encore un peu différent de ce qu'on a. Mais voilà, on sait qu'on a Renaud Aymon qui arrive encore, qui revient de blessure, qui est maintenant prêt à reprendre petit à petit des minutes. On a Noah Ohio qui finalement commence seulement à montrer son vrai potentiel, qui est sans doute aussi un transfert hivernal plus qu'estival. On a Stipe Perica qui a marqué lors du dernier match et qui, on est convaincu qu'il va pouvoir encore apporter beaucoup. On a Davida, donc le but est vraiment de croire dans les joueurs qu'on a. On a fait un attaquant pour la deuxième équipe qui peut-être aussi jouer un rôle à un moment pour le Standard dans la deuxième partie de saison. Donc on est serein à ce niveau-là.
Ça, vous avez plutôt été vers des jeunes plutôt pour la Challenger Pro League alors?
Oui, c'est vrai que c'est la particularité aussi c'est le premier mercato hivernal où il y a deux équipes.
C'est ça.
Et c'est vrai que on veut que le SL16FC reste en Challenger League la saison prochaine. Donc là aussi, on a fait les renforts qu'on souhaitait faire pour aider cette équipe-là qui a du potentiel, qui produit un beau football, mais qui parfois manque un peu d'efficacité dans les deux rectangles. Donc on a essayé de corriger ça.
J'ai une petite question, ce n'est pas une question piège, mais aujourd'hui, vous le dites, il y a deux équipes. Il y en a une qui est aux portes du top 4, même si ce n'est pas l'objectif que le Standard peut-être a, mais ça vous fait quand même saliver. Si je vous pose la question, le Standard top 4 en Pro League ou le SL16 qui reste en Challenger Pro League?
Ah, ça, c'est très très compliqué à répondre. Je pourrais difficilement choisir. Honnêtement, le top 4, ça ne se refuse pas pour le Standard, parce que c'est vrai que ce sera un plus. Maintenant, vous l'avez bien dit, c'est pas l'objectif et on veut construire. Et dans l'optique de construction, garder le SL16FC en Challenger Pro League est important pour nous. Donc honnêtement, je vais faire mon joker pour choisir à ce niveau-là. D'accord, on est d'accord, parce que les deux sont importants pour nous. Enfin, le fait de garder le SL16FC, en tout cas, le top 4, si on peut l'avoir, ce serait magnifique.
Parce que quand on regarde le mercato, vous avez finalement été, entre guillemets, agressif pour l'équipe de Challenger Pro League.
Oui, tout à fait, mais bon, après...
Les besoins étaient différents, en fait.
Les besoins étaient différents, et c'est clair qu'on ne parle pas non plus des mêmes budgets, etc.
Oui.
Mais c'est vrai que on sent cette tendance un peu dans les supporters qui nous ont dit « Ok, on comprend bien, le top 8, c'est déjà bien cette année, il y a une reconstruction. » Mais quand même, on n'est pas loin du top 4. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire le petit effort, la petite folie, le petit... Et ça, la réponse est non, c'est clair. On a un plan qu'on a dressé. Et voilà, le fait d'en sortir a plusieurs conséquences qui seraient négatives. Donc nous, on reste dans le plan et on va essayer d'aller chercher le plus haut possible. Et tant que le top 4 est atteignable, on essayera. Mais voilà, c'est vrai que si on peut être dans le top 8 cette année, on sera content.
Le fait que Noé Ducène reste finalement, ça a un peu influencé le mercato?
Oui, c'était une donnée importante, ça c'est sûr, parce que sinon il aurait fallu le remplacer. Donc voilà, Noé a choisi de rester.
Comment ça s'est passé?
Content. Tout simplement, c'est plus de son côté. Voilà, à un moment, il pensait pouvoir avoir une opportunité qui pour lui était très bonne vu le stade où il en est dans sa carrière. Donc nous, on a dit qu'on serait correct vis-à-vis de ce joueur-là, qu'il a toujours été exemplaire au Standard.
On parle de Moscou.
Voilà, c'est pas à moi, c'est de son côté. Et nous, on n'a eu aucune offre concrète, donc je ne vais, vais pas me prononcer là-dessus. Mais voilà, au final, la possibilité ne s'est pas matérialisée, je pense, à 100%. Donc Noé est resté comme c'était, je veux dire, prévu à la base. Et nous, on en est très contents.
On l'a vu d'ailleurs vendredi, un peu le game changer lors du match à Eupen. Il a vraiment fait un bon match, enfin, face à Eupen ici.
Oui, tout à fait. Noé est performant.
La bonne mentalité, oui, c'est ça.
Exactement, depuis plusieurs semaines, et on sait ce qu'il nous apporte.
La grinta de Noé Ducène, on revient un petit peu en arrière concernant Noé, justement. On revient à cette période de stage, où pendant le stage, Fergalarkin a rencontré certains joueurs. Fergalarkin a rencontré Noé Ducène. Fergalarkin a dit à Noé Ducène qu'il ne comptait plus sur lui à un moment donné en stage. Et puis, il y a eu toute une série de choses qui se sont passées avec Noé. Est-ce que là, c'est un échec du coup du côté du Standard? Parce que c'est très clair, Pierre, le Standard voulait vendre Noé Ducène parce que dans 5 mois, Noé est en fin de contrat.
Très honnêtement, non. Donc en fait, c'est vrai qu'on essaye d'être très honnête avec les joueurs. Mmh. Et Noé est un joueur qui est en fin de contrat. Donc il se pose légitimement et qui nous pose légitimement la question de la suite et d'une possible extension de contrat. Et c'est là qu'on doit évidemment pouvoir se positionner. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, notre position a été de dire on ne va pas entamer ces discussions-là maintenant. Mais la porte n'est pas fermée. Peut-être courant du mois de février, mars, post-mercato. Mais ce n'était pas l'intention du Standard de démarrer des discussions de prolongation avec Noé avant le mercato hivernal. Et forcément, lui, il doit en tirer les conclusions qu'il doit en tirer aussi et potentiellement regarder ce qu'il peut avoir ailleurs alors pour lui au mois de janvier. Et ça, on le comprend, on doit être correct aussi. Mais voilà, il n'y a jamais eu le signal vis-à-vis de Noé de dire « tu dois partir absolument ». Noé a toujours été à 100% partie du groupe, contrairement à d'autres. Donc je pense qu'on on voit clairement le contraste par rapport à ça et aux intentions du club par rapport à ça. Et il a toujours fait partie de l'équipe, il a toujours pu jouer parce qu'il mérite, hein, tout simplement. Donc voilà, la situation est celle-là. Et c'est vrai qu'ok, alors on peut dire est-ce qu'on aurait dû ne pas lui dire, lui mentir, etc. Mais le but, c'est d'être honnête avec les joueurs. C'est aussi l'optique dans laquelle veut travailler Fergal. Parfois, ça peut causer des petites frustrations. Peut-être que la chose aurait pu être mieux amenée, peut-être qu'il y aura un mea culpa à faire aussi à ce niveau-là, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui les choses sont claires, et Noé se donne à 100% pour le Standard, je pense qu'il est très content d'être là, donc il n'y a pas de problème.
Parlons un petit peu de Selim Amela et Nicolas Raskin, forcément, on allait obligatoirement
les dossiers,
en tout cas plutôt intéressant parce qu'il est temps d'éclairer peut-être un petit peu quelques points. Donc Nicolas Raskin est parti aux Rangers. Quand vous avez fait l'interview d'Eleven Insiders dans les studios avec Jérémy, vous aviez dit en octobre que potentiellement ça pourrait quand même aboutir la discussion. Là au final, pas du tout, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est déroulé au final?
Bon, je pense que tout simplement on n'a pas réussi à tomber d'accord. La situation était complexe depuis le début avec ces deux joueurs-là. Ils arrivaient dans leur dernière année de contrat au moment d'un rachat, au moment où le Standard sort d'une saison catastrophique. Est-ce qu'on peut leur reprocher de ne pas avoir d'emblée voulu re-signer et s'engager, je veux dire, sur base d'un nouveau projet qu'ils ne connaissaient pas et suite à plusieurs mois très très compliqués, nous on a pu comprendre leur patience. Après, on estimait que quand on avait apporté certains éclaircissements quant au projet et à l'encadrement au niveau d'ambition, ben voilà, c'était le moment de se mettre réellement à table. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il n'était plus qu'à quelques mois d'être libre, avec beaucoup de potentielles opportunités, ou en tout cas, c'est ce qui leur était expliqué sans doute. Selim Amela avec une Coupe du Monde, donc c'était presque un scénario parfait pour un joueur jouer une Coupe du Monde, puis pouvoir être libre derrière. Donc c'était objectivement vraiment compliqué. Eux voulaient pouvoir, c'est pas des joueurs qui venaient d'arriver au Standard non plus, ils étaient là depuis un certain nombre d'années, et je pense qu'ils avaient tous les deux en tête la possibilité de passer un cap dans leur carrière, ce qu'on peut difficilement leur reprocher aussi. Donc tout ça rendait la discussion compliquée, ils voulaient pouvoir se garder une porte de sortie, et voilà, je pense qu'on n'est pas tombé d'accord par rapport à ça. Le Standard devait défendre ses intérêts aussi en disant, s'il y a une prolongation, il faut que derrière, il puisse avoir une vraie capacité de négociation du Standard pour un transfert futur, si on continue à investir sur le joueur, et c'est tout simplement là que ça a coincé. Au final avec les deux joueurs et voilà, maintenant on sentait cela arriver, on a anticipé au mois d'août je pense comme il fallait au niveau des recrues pour pouvoir se permettre de prendre les décisions qu'on a prises dans les mois qui ont suivi.
C'est par rapport à cette clause libératoire qui a eu des soucis avec et des cheveux gris dans le dossier Raskin.
Oui, je pense que c'est pas un secret, voilà, c'était sur les conditions potentielles de sortie de Nicolas, ouais.
Okay. Mais le fait de ne pas avoir réussi à prolonger Nicolas Raskin qui représente un peu quand même le club, c'est pas il y a pas une certaine frustration ou un peu
Si, quand même, on avait envie qu'il reste, comme tout le public, comme tout le monde. On avait envie qu'il puisse encore jouer sous les couleurs du Standard longtemps. Donc si, c'est dommage. C'est évidemment dommage, mais voilà, c'est comme ça. On a, je pense, fait le maximum de ce qu'on pouvait au niveau du Standard. Et ça n'a pas été possible. Et voilà, je dis, je ne veux pas le reprocher ou pointer Nicolas en particulier. C'est les circonstances qui ont fait que... Et maintenant, on a tourné la page.
Vous êtes quand même parti en vous serrant la main. Il n'y a pas un désaccord. Est-ce que Nicolas, par exemple, va peut-être revenir un jour donner un coup d'envoi à Sclessin cette saison?
Moi, il n'y a aucun problème. Il peut tout à fait revenir. Voilà, il y a eu des frustrations, je pense, au moment des discussions. Il y a eu des deux côtés parce que ce n'était pas facile. Maintenant, je pense que voilà, c'était la volonté de Nicolas, et je le pense sincère, de ne pas quitter le Standard et que le Standard n'est rien. Voilà, mais il avait cette envie de passer un cap dans sa carrière, qu'on peut comprendre aussi. Et aujourd'hui, les deux sont réalisés. Le Standard a obtenu, je trouve, une compensation tout à fait raisonnable pour le transfert de Nicolas Raskin. Et lui a pu passer le cap qu'il voulait. Donc je pense qu'à ce niveau-là, les deux peuvent être satisfaits. Donc on se recroisera avec plaisir.
Et par rapport à Selim Amela, comment ça s'est terminé?
Là aussi, pareil. Selim a été un peu dans un autre rythme avec la Coupe du Monde qu'il a joué, où il a joué bien et longtemps. Et puis voilà, il est revenu, et là aussi on savait que le mois de janvier serait important, et finalement un accord a pu être trouvé avec Valladolid. Et donc tant mieux pour tout le monde, tant mieux pour lui, et bonne chance à lui.
Qui joue en mauvais blanc,
voyez. Oui, c'est...
Quand on vient des rouges.
Eh oui, exactement.
Ça pique un peu aux yeux.
Ça pique un peu aux yeux de le voir en mauvais blanc, mais bon, on lui souhaite le meilleur quand même sous ses nouvelles couleurs.
Très bien.
Oui, je voulais revenir sur la fameuse cote que vous avez donnée en début d'émission, 8 sur 10. Est-ce que dans ce 8 sur 10, vous prenez en compte finalement et vous vous dites, Fergal Harkin, il a quand même permis au Standard d'obtenir ce que le Standard voulait, parce que ça n'a pas été facile dans les négociations pour Raskin, pour Amala au final. Bon, il y a 2 millions avec bonus plus un pourcentage à la revente, donc dans ce dossier-là, il faut aussi pouvoir mettre les choses en avant. Fergal Harkin a fait du bon boulot.
Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Fergal fait du très bon boulot de manière générale. C'est vrai qu'on pense toujours aux dossiers entrants, mais il y a les dossiers sortants qu'il faut essayer de réussir le mieux possible. Et c'était des dossiers complexes. Donc oui, on est content des conditions auxquelles les joueurs sont sortis. Et puis, comme je le dis, on travaille toujours avec les joueurs qu'on a recrutés à l'été. On essaye toujours de les intégrer mieux, de tirer un maximum de leur potentiel. Et je pense que c'est un peu la marque de fabrique du Standard depuis cette saison, c'est de tirer un maximum des joueurs qui sont là et d'envoyer le signal qu'on croit dans les joueurs qui sont là. Et voilà, donc les différentes recrues commencent vraiment à montrer de plus en plus leur apport. Je parlais d'Ohio, de Pericha, on peut aussi citer Marlon Fossi, Steven Alzate, qui, je pense, grandissent de semaine en semaine dans cette équipe-là. Et je pense que c'est ça qui est important, plutôt que de parfois trop vite switcher d'un joueur à un autre quand il a fait 4-5 mauvais matchs. Il y a cette volonté de dire, on sait pourquoi on a fait le choix de ces joueurs-là et on va travailler jusqu'à ce qu'on voit ce qu'on voulait voir.
Ça, donc c'est le choix de la confiance et de la stabilité avant toute chose, quoi.
Oui, exactement. Je pense que ça a souvent fait défaut au Standard par le passé. Et je pense qu'il ne faut pas croire au miracle ou au joueur miracle qui arrive au mois de janvier et qui va faire basculer la compétition. On croit dans le travail, on croit dans ce qui a été posé comme base au mois d'août. Et on va essayer de tirer le maximum jusqu'à fin de saison.
Par rapport à, encore à ce point Mercato, avant de refermer le chapitre, parce qu'on a tellement de choses à aborder avec vous, Pierre. Est-ce que Chimirot était un problème pour l'équilibre, à la fois du vestiaire, ici au Standard? On a entendu les propos de votre coach, Ronny Deyla. Il parlait d'un manque de régularité, de constance. Il y a eu une incompréhension des supporters quand il est parti dans l'un des clubs satellites de 777 Partners.
Dragus.
Oui, j'ai parlé de
Chimirot.
De Chimirot, c'était un lapsus.
Pour savoir si
elle prolonger ou pas.
Prochain, oui.
Dragus est prêté.
Dragus est prêté, oui, tout à fait. Denis nous a apporté durant cette première partie de saison, ça c'est indiscutable. Mais c'est vrai que c'est pas un problème, je pense, ponctuel ici. C'est quelque chose qui est un peu récurrent chez Denis. En tout cas, c'est le retour qu'on a souvent des staffs sportifs. C'est un peu cette instabilité, c'est vrai, incapacité à enchaîner ou à vraiment trouver, répondre aux consignes tactiques demandées. Donc voilà, il y a eu cette opportunité-là. Lui aussi souhaitait la prendre. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas freiné parce qu'on estimait que c'était une bonne opération pour lui et pour nous.
Est-ce que là, aujourd'hui, en tant que CEO, vous êtes en phase avec le projet 777?
Oui, tout à fait. Sinon, je ne serais plus là. Le jour où je ne le serai plus,
Donc là, vous êtes satisfait de l'effectif, de ce qui est du projet à
mener? Oui, surtout sur le projet moyen long terme, c'est vraiment ça le plus important, c'est-à-dire d'essayer de renforcer le club de mois en mois, d'année en année. Ça, c'est vraiment le plus important. Donc, la manière dont on veut le faire, en essayant d'agir intelligemment, de faire les bons choix, d'investir aussi dans les jeunes, de laisser la place aux jeunes. C'est la qualité des jeunes qu'il y a dans notre académie. Et donc, ça fait partie du projet aussi. Tout ça me semble cohérent et aller dans le bon sens. Oui.
On en parlait avant ensemble. Le plus gros coup du Standard, c'est pas d'avoir pris Ronny Deyla comme entraîneur?
Honnêtement, je pense que oui. On est évidemment très, très, très content de ce choix. Ça a été difficile de le faire venir. Les négociations vraiment étaient au finish à ce moment-là. On voulait l'avoir pour la reprise. Ça a été au bout. Mais oui, Ronny apporte énormément. C'est pas un secret, tout le monde le voit. Et au-delà d'être un très bon entraîneur, moi j'ai découvert un grand homme. C'est quelqu'un avec énormément de charisme, qui est très, très structuré, très précis pendant la semaine et qui a après le degré de folie aussi, qui sait avoir le jour du match pour pousser ses joueurs au maximum. Et puis c'est un homme de club, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut s'inscrire dans un projet de club. Et de nouveau, il a compris la situation dans laquelle était le Standard, il a compris qu'il faut construire quelque chose et il a envie de construire. Il n'est pas là pour dire « moi je veux absolument terminer troisième ou quatrième plutôt que cinq et sixième, peu importe le prix, ou après je m'en vais ». Voilà, on discute déjà beaucoup de la saison prochaine, de comment on va construire la saison prochaine, etc., etc. Il se projette et il a dit « oui, bien sûr que j'ai envie de remporter des trophées et des choses en tant qu'entraîneur, mais j'aime aussi construire des choses quand je suis dans un club ». Et donc, c'est un plaisir pour nous de pouvoir faire ça avec lui.
Alors vous devez bouger les curseurs, évidemment, pour ne pas être trop dans le rouge ou plus dans le rouge que vous ne l'êtes pour l'instant. Ça valait la peine d'aller un petit peu plus loin? On sait que vous avez dû mettre plus d'argent pour aller le chercher, Ronny Deyla. C'était, on peut dire, le premier gros coup de Fergal Harkin?
Oui, tout à fait. C'était un choix dans lequel Fergal connaît Ronnie, donc il n'était pas encore actif au Standard à ce moment-là, mais on savait qu'il était tout à fait favorable à ce choix-là. Après, c'était avec d'autres personnes aussi dans la structure 777 que les discussions ont pu être menées. Mais c'est vrai que c'était un investissement à ce moment-là dans la situation dans laquelle était le club, mais qu'on ne regrette pas du tout.
Parce que là, aujourd'hui, le Standard est sixième avec 37 points. C'est limite un peu rageant, les points perdus, notamment au début de saison face à Eupen, face à Serein, face à Saint-Tron. C'est pas un peu rageant de se dire, tiens, on est sixième, 37 points, on aurait pu être encore plus haut?
On peut toujours voir le verre. C'est toujours le verre à moitié vin, à moitié plein, à moitié vide. Bien sûr, dans l'ensemble, le sentiment est qu'on est content d'être là. Mais c'est vrai qu'il y a des points qui nous sont filés entre les doigts. On aurait pu sans doute en avoir un peu plus. Après, je pense qu'il faut accepter le fait, en sachant d'où on vient, qu'il y a encore une forme d'inconstance et que l'équipe n'est pas encore capable de répéter toujours le même niveau et de rendre toujours la même copie chaque semaine.
Parce qu'il y avait une période sans victoire qui a duré quand même quelques semaines, quelques matchs.
Oui,
et là, voilà, vous avez renoué avec la victoire, donc c'est relancé, on va dire.
Oui, c'est plus ou moins relancé. Il y a eu deux victoires en trois matchs ici, donc qui fait du bien. Mais ce sera le championnat belge est aussi cette particularité là que on a le sentiment que tout le monde peut battre tout le monde quand même. Allez, on va mettre Genk peut-être de côté, et de plus en plus l'Union aussi qui est en puissance cette saison. Il faut être juste, oui, c'est vrai, mais sinon toutes les équipes se battent et puis tout le monde a quelque chose à jouer avec ce format de compétition, donc chaque match compte, il y a pas de match mort comme on dit. Donc ça va être difficile jusqu'au bout.
Au niveau des points, vous en avez 37 aujourd'hui, vous savez, Pierre, combien vous en aviez sur l'ensemble de la saison dernière?
Si je ne me trompe pas, 36.
36. Mmh. Donc ouais, déjà, vous nous avez déclaré dans Eleven Insiders en octobre, faire mieux.
Exactement, j'allais vous le dire, c'était l'objectif début de saison. Le vrai objectif de départ, c'est de dire on doit faire mieux que l'année dernière.
Après, il a évolué quand même.
C'est chose faite. Je pense qu'on
n'est pas sûr
que c'est chose faite. On savait que c'était chose faite. Aujourd'hui, on ne va plus dire ça. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est clairement le top 8.
C'est ça, il faut être quand même cohérent avec les résultats.
Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'inconnus au départ de la saison qui ont été levés petit à petit. Donc voilà, à nous de continuer sur ce chemin-là et d'engranger un maximum de points.
Et ce qui est impressionnant, je trouve, avec l'équipe aujourd'hui, mais tu me diras si je me trompe, Jérémy, mais je trouve que René Zayla, ce qu'il a réussi à faire, c'est que chaque joueur est extrêmement concerné. Donc même ceux qui ne débutent pas, qui ne sont pas titulaires, rentrent en mode, mais ils ont faim, en fait. Je trouve qu'il a réussi à mettre cette mentalité vraiment du Standard, en fait, dans l'esprit des joueurs.
Ouais, tout à fait.
Est-ce que vous ressentez aussi?
Oui, tout à fait. Il a beaucoup insisté là-dessus dès son arrivée, hein, sur l'esprit de famille, comme il appelle ça. Il dit on doit former une famille, on doit former un groupe, c'est ensemble qu'on va le faire ou on ne le fera pas du tout. Et je pense que c'est ce que tous les coachs cherchent, tous les clubs cherchent à créer ça, mais ce n'est pas facile. Et lui, il y est arrivé, vraiment. Et c'est aussi dans cette optique-là qu'il nous soutient dans la démarche au niveau du mercato, de dire voilà, on ne rajoute des joueurs que si vraiment c'est une plus-value, parce que sinon, ça peut affaiblir cet esprit de famille quand le vestiaire est trop large. Quand il y a des joueurs qui arrivent mais qui ne comprennent pas leur rôle ou juste le pourquoi ils sont arrivés. Donc aujourd'hui, je pense que chaque joueur a trouvé sa place dans le groupe. Chaque joueur sait pourquoi il est là, sait qu'il a une pierre à apporter à l'édifice. Et ça, c'est clairement le mérite de Ronnie Day.
Et donc ça veut dire que vous avez déjà travaillé avec lui et que maintenant le mercato hivernal est terminé, mais il est déjà en train de bosser sur le mercato estival. Il y a déjà des profils qu'il vous a rendus, des joueurs que vous suivez. C'est finalement assez rare dans le monde du foot actuel de pouvoir se dire on se projette déjà avec un entraîneur.
Oui, c'est ça. Mais
c'est un luxe.
Oui, tout à fait. C'est un luxe et je pense que c'est un des ingrédients du succès, je pense, pour le futur. C'est de pouvoir justement anticiper, pouvoir être dans la stabilité, etc. Après, le monde du foot, est-ce qu'il est? On ne sait jamais ce qui peut arriver.
Super vite, c'est imprévisible.
Il peut y avoir des changements, mais c'est vrai qu'on travaille de manière structurée, sur du moyen long terme, en essayant d'anticiper et en essayant d'être le moins possible dans l'émotion. Et on a un coach qui est aligné avec ça. On a une équipe de scouting qui s'est bien renforcée ces derniers mois. Donc on continue et il faut qu'on améliore encore pas mal de choses au sein du club, dans les structures du club. Mais notamment quoi?
Qu'est-ce que vous voulez évoluer?
Il y a pas mal de choses. Comme je dis, la cellule de scouting, elle a grandi. L'encadrement autour de l'équipe première grandit aussi, peut encore s'améliorer. C'est notre ambition d'améliorer encore tout ce qui touche, tout ce qui entoure les joueurs, tout simplement pour tirer le maximum de ceci. L'équipe U23, c'est pareil, c'est une nouveauté. On a démarré un peu avec les moyens du bord, mais en essayant de mettre en place quelque chose de professionnel quand même, ce qui est le cas, mais il y a encore une belle marge d'amélioration aussi dans tout ce qui est en place aujourd'hui autour de cette équipe-là.
Aujourd'hui, c'est facile de convaincre des jeunes de venir jouer dans cette équipe SLCS. L'équipe et votre académie a encore un réel pouvoir d'attraction, Pierre ?
Oui, tout à fait. Clairement, je pense que c'est pas compliqué. Les U23 en 1B, c'est un réel atout parce que voilà, c'est le football professionnel. Quand on vient dans cette équipe-là, on existe en tant que joueur professionnel, on existe sur le marché des transferts. Donc oui, c'est un vrai plus. L'Académie du Standard, bien sûr, qu'elle a encore eu un très très gros impact en Belgique. Quand le Standard frappe à la porte de n'importe quel jeune, en général, on nous dit toujours bah oui, on va écouter, bien sûr, c'est le Standard. Donc après, on n'arrive pas à convaincre tous les jeunes toujours parce que en Belgique, les distances sont courtes, donc tous les clubs sont sur tous les talents, évidemment. Mais oui, ça reste un des gros points forts du club, mais c'est un gros investissement aussi, et ça, les supporters doivent le comprendre. Aujourd'hui, Académie plus équipe U23, ça a un coût pour le club de plus de 7 millions d'euros par an. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas d'autre choix que de laisser la place à des jeunes aussi. Il faut que ces jeunes reçoivent une opportunité en équipe première, sinon ça n'a pas de sens de faire cet investissement supplémentaire dans une deuxième équipe professionnelle. Donc ça va vraiment faire partie dans les prochaines années, encore plus que ce que ça ne l'était par le passé, du fonctionnement du club, d'intégrer ces jeunes-là.
Parce que quand vous voyez et quand on voit ce qui se passe du côté d'Anderlecht aujourd'hui, avec la fuite des talents, je me mets à votre place, c'est votre bébé, l'Académie du Standard. Vous êtes passé par là aussi, Pierre, vous avez eu un rôle central. Vous avez envie de l'éviter, ce genre de situation, de voir vos talents partir?
Oui, bien sûr, ça fait mal et c'est compliqué. Après, voilà, c'est vrai qu'on a connu aussi des saisons sportivement, l'équipe première sportivement très compliquée. On sait que ça a un impact toujours sur l'Académie aussi, ce qui se passe au niveau de l'équipe première. Donc voilà, après, honnêtement, je ne m'inquiète pas trop pour l'Académie d'Anderlecht parce que, après, voilà, je ne connais pas tout ce qui s'y passe au juste, mais je veux dire, ils ont un grand vivier de talents avec Bruxelles, ils ont toujours très bien travaillé, je pense qu'ils continueront à sortir des jeunes. Mais c'est vrai qu'on a toujours envie que les jeunes puissent d'abord jouer un certain nombre de matchs en équipe première avant qu'ils ne quittent. Mais voilà, parfois, quand la situation du club est telle qu'il y a besoin de pouvoir vendre des joueurs, on sait que les jeunes sont souvent des solutions faciles pour être vendus, donc on peut être amené à devoir le faire. Après, voilà, l'Académie est toujours au service du club, donc si ça peut aider, il faut le faire aussi.
Au-delà d'un investissement financier, c'est un investissement sur le long terme. Vous l'avez très bien dit, après il y a des ponts qui peuvent se former entre l'Académie, les équipes jeunes, les équipes premières. Donc c'est tout à fait important pour vous.
Oui, bien sûr. Non, c'est vraiment un pilier essentiel de la stratégie. C'est vraiment une des raisons pour laquelle 777 a choisi d'investir dans le Standard. Donc voilà, on est très content de voir William Balikwisha, Gian Kanak, Lucas Noubi, etc. faire leur premier pas. Et je vous dis, on est aussi content que le noyau aujourd'hui, la taille du noyau, la structure du noyau va encore permettre d'intégrer d'autres jeunes dans les prochains mois, ou en tout cas de leur donner une chance. Après, ça a eu de la saisir. Donc ça fait partie de ce qu'on veut faire et on va pouvoir le faire.
Vous attendiez à ce que ça aille, entre guillemets, aussi vite, dans le sens où au début de saison, on se disait reconstruction, on verra un peu ce qui va se passer, on espère que ça se passe bien. Mais là, c'est quand même au-delà de vos espérances. Ou pas? Ou vous êtes...
Non, si, objectivement, oui. On est... Allez, surtout là... Au final, c'est vrai qu'on a eu un petit creux ici dans les dernières semaines, mais sinon, il y a quand même une stabilité. Je crois que notre position au classement, elle a assez peu varié tout au long de l'année. On est là. Donc la stabilité qu'on a réussi à atteindre dans le fonctionnement quotidien du club est positive. Le rendement de l'équipe, qui a assez vite été bon et qui est resté globalement bon, est une très bonne surprise, mais après, ce n'est pas un miracle, c'est évidemment le fruit du travail du staff joueurs.
Ça peut faire accélérer un peu le processus. On parle du retour des abonnements, notamment des abonnés, des sponsors aussi. On sait que ça a été plus compliqué à une période, certains sont partis, Pierre. Ça peut vous aider à aller un peu plus vite dans la reconstruction?
Absolument, c'est toujours les rien à faire, les résultats de l'équipe première sont moteurs. On a toute une série de revenus qui arrivent, mais c'est vrai que si on regarde quel est le facteur qui fait varier le plus ces revenus-là, c'est souvent les résultats, même pour le ticketing, pour le sponsoring, même pour les droits TV, les résultats ont une importance décisive. Donc oui, bien sûr que ce seront les résultats qui nous aideront en tout cas qui dicteront le tempo du retour du standard vers le haut niveau.
Vous avez déjà fait la différence entre ce que vous allez gagner pour une participation au top 4 ou au top 8? Vous avez déjà fait la différence là?
Ouais, on a tous ces scénarios là qui sont bien couchés par écrit. Ouais, tout à fait.
La différence, elle est de combien?
Oh, elle est conséquente. Elle est en plusieurs millions, ça c'est sûr. C'est vrai que les playoffs, c'est une compétition qui génère beaucoup de revenus. Donc, je vous dis, nous voit à tous les niveaux, ticketing, droit TV, merchandising. Enfin, on sait que ça a un impact positif à tous les niveaux parce que ça crée énormément d'enthousiasme. Donc voilà. Mais aujourd'hui, on part pas sur ce scénario-là. On ne planifie pas sur ce scénario-là. On planifie plutôt d'un scénario plus prudent pour ne pas avoir de mauvaises surprises.
Vous avez un paquet de supporters. Moi, j'étais là vendredi face à UPenn. Pour un vendredi, il y avait une ambiance quand même assez, assez folle. Peritia qui marque, qui fonce vers les supporters. Il y a aussi cet amour qui est hyper important.
Oui, tout à fait. Ça reste.
Et retrouver limite un peu.
Ouais, ouais, il n'y avait que 14 000 personnes quand même.
Mais, mais pour un vendredi soir, tu vois, c'est dans le froid, il faisait extrêmement froid.
Mais le standard, vous avez envie, à mon avis, de revenir à un stade de 25 000 à chaque match.
C'est ce qu'on aimerait faire, évidemment. Après, c'est pas facile. Je pense qu'en effet, on n'a pas à se plaindre de l'assistance lors de nos matchs, du nombre d'abonnements vendus. C'est fantastique, honnêtement. En sachant d'où on vient,
c'est ça.
Le soutien des supporters est énorme et a été là d'emblée. Et c'est une des raisons de la réussite aussi. On parle beaucoup de Ronnie Dayla, mais le fait que d'emblée les supporters aient envoyé ce signal en se réabonnant à 20 000 et étaient là dès le début de match, etc., pour dire on veut soutenir ce nouveau projet. Ça a été très important, ça l'est toujours. Bien sûr que c'est un facteur de motivation énorme pour les joueurs de jouer à domicile face à un public comme celui-là. Donc oui, c'est hyper important pour nous, c'est un des moteurs du club, donc on doit travailler à garder ça. Et évidemment que ça nous aide.
Donc les ambitions cette année, top 8, c'est ça?
L'ambition cette année du club.
Encore aujourd'hui, là, vous signez top 8.
Oui, tout à fait. C'est le but, c'est d'être dans le top 8 au niveau du club. Après, je pense que l'équipe, elle a faim de plus. Et c'est très bien, il faut que les joueurs aient envie d'aller le plus haut possible, le coach aussi, mais nous au niveau du club on veut être dans le top 8 cette année.
Mais regardez vers le haut, c'est mieux que vers
regardez
le bas
vers
parce
le
que
bas.
Finalement le 9e n'est pas très loin non plus, hein.
Non,
exactement, c'est ça la réalité. Donc on a toujours tendance à mais on regarde en haut et en bas. Après on regarde surtout nous-mêmes le prochain match et prendre des points, c'est ça la clé de toute façon.
C'est ça, parce qu'il y a bientôt l'Union, il y a bientôt un petit classico, il faudra prendre des points juste avant pour arriver
Oui, après parfois c'est pas les matchs on sait que c'est parfois les matchs les plus qui sont sur papier devraient être plus simples, qui sont les plus compliqués.
C'est donc, là où vous avez perdu beaucoup de points d'ailleurs cette saison.
Exactement. Donc chaque match, voilà, on démarre chaque match en pensant qu'on peut le gagner. Et je pense que avant chaque match, on a une chance de gagner, mais on a aussi une chance de perdre chaque match en Belgique. Donc on doit être attentif et essayer d'être le plus efficace possible.
Par rapport, pour refermer vraiment cette partie standard, parce qu'évidemment, le nouveau sélectionneur qui arrive, ça vous passe directement, Pierre, on y vient.
Mais, un petit peu en parler quand même.
On en a beaucoup parlé à un moment donné par rapport à la Galaxie 777 qui était arrivée ici. Très tôt, on a su qu'il n'y avait pas de sous pour le mercato, ou très peu en tous les cas.
Vous nous l'avez dit, en tout cas, vous l'avez dit.
Ouais. Est-ce qu'il y avait plus de dettes qu'annoncées? Est-ce que vous avez découvert des cadavres dans les armoires, pour le dire comme cela?
Ouais.
Il y a une mauvaise surprise ou pas?
Non, je pense pas. Je pense pas de grosse en tout cas. Après, de nouveau, il y a deux choses. C'est vraiment, c'est 777 Partners qui a racheté le standard, qui aujourd'hui a mis un management en place, dont je suis CEO et je suis chargé de gérer la gestion du club aujourd'hui. Les suites et les conséquences du rachat, c'est moins dans mes tâches. Donc tout ça est géré encore par 777, des bureaux d'avocats, etc. Donc moi, je peux moins me prononcer parce qu'honnêtement, je connais moins ce dossier-là et je vais être franc avec vous, ça m'arrange bien de pouvoir me concentrer. Je suis très content de ce mode de fonctionnement parce que je peux me concentrer sur le club, etc. Donc j'en sais moins, mais c'est vrai que le trou est très très grand, mais ça on le savait en bonne partie. Et c'est vrai que ça n'a pas été l'idée de 777 de faire un gros chèque d'un coup et dire on oublie le passé, on avance, on règle les problèmes un à un, ils veulent comprendre, ok, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait. Et pour ne plus répéter les mêmes erreurs aussi, de savoir comment ce trou financier est arrivé et pour essayer de corriger ça petit à petit. Donc ça prend du temps. Ça se redresse. Ils ont déjà envoyé beaucoup d'argent au club. Ils ont injecté plus de 20 millions d'euros aujourd'hui, ce qui est énorme. Mais ce qui est injecté aujourd'hui sert à maintenir les activités du club, à payer ce qui doit être payé. Et c'est vrai qu'on n'est pas dans des perspectives de gros investissements pour le futur. Je pense que l'idée est vraiment d'abord d'assainir, de prendre les mois qu'il faut, les temps d'analyse qu'il faut, tout en essayant malgré tout de développer des projets, et c'est ce qu'on fait. On veut encore grandir avec le foot féminin, où on va accueillir la finale de la Coupe de Belgique ici, qu'on espère bien jouer. On va essayer de faire un très très gros événement autour du foot féminin. On a lancé le futsal qui est en demi-finale de Coupe de Belgique aussi. Donc on a tous ces produits annexes qu'on veut développer et créer dans un contexte financier qui est pas facile, mais qui s'améliore vraiment.
Et je me mets à la place du supporter, ça veut dire que vu la situation, dans 5 ans, le Standard sera peut-être toujours en difficulté de pouvoir recruter lors d'un mercato ?
Non, je pense qu'il y a de réelles perspectives d'amélioration. Comme je dis, le trou est en train de se combler. Voilà, 20 millions d'euros, c'est pas rien, même si le trou était encore plus gros que ça. Mais je veux dire, la situation s'améliore clairement de mois en mois. Et après, on doit générer de la valeur aussi avec les joueurs. Il n'y a rien à faire. Et ça, c'est fonction des résultats. Plus on gagne, mieux on peut vendre des joueurs. Et fonction des joueurs aussi qu'on amène, ne plus avoir la problématique de la fin de contrat. Donc ça, on va l'éviter et on va prolonger les joueurs assez tôt. Et voilà, on voit déjà, je pense que sur le terrain, il y a pas mal de joueurs qui, je pense, auront une valeur intéressante dans les prochaines années sur le marché et qui vont nous aider, même si d'abord, il faut qu'ils prestent et qu'ils nous fassent gagner des matchs.
Quand vous étiez venu en octobre dans Eleven Insiders, vous avez parlé un peu de cette collaboration avec 77 Partners. Où elle en est aujourd'hui ? Comment ça se passe au quotidien ?
Ben c'est de mieux en mieux en place. Hein. Donc 77 Partners a un projet foot parmi d'autres activités. Hein, de nouveau à Miami, ils sont actifs dans l'aviation, dans l'assurance, etc. Mais ils ont un vrai projet foot et pour ça, ils ont mis une structure en place qui s'appelle le Football Group, donc 777 Football Group, qui est basé à Londres. Et donc, il y a là toute une série de personnes expertes dans le football, donc qui sont des gens qui ont été recrutés dans des grands clubs de football et qui sont chargés de coordonner un peu les différents clubs, de piloter à distance, tout en laissant une autonomie. Mais je veux dire, ce sont des gens qu'on peut facilement joindre pour dire, OK, c'est quoi la volonté de l'actionnaire là-dessus, on a tel problème, à qui on présente nos plans, voilà ce qu'on veut faire sur les prochains mois, voilà ce qu'on a en tête pour le mercato. Et donc, ils suivent ça, ils nous laissent l'initiative, donc c'est vraiment nous qui avons l'initiative, mais ils valident, ils contrôlent, ils corrigent s'il faut. Donc, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne en pratique. Mais c'est vrai qu'il y a cette volonté dans le projet de 777 de rester en retrait avec l'identité. Et voilà, ça se différencie d'un Red Bull par rapport à ça, qui a changé le nom du club, qui a changé où on veut que l'identité du groupe prédomine. C'est pas du tout la volonté chez 777 parce qu'ils rachètent des clubs avec une forte histoire, avec une forte identité. C'est vraiment le point commun de tous les clubs qu'ils ont rachetés. Et c'est ça qui les intéresse. Et donc, ils disent, nous, ça nous intéresse pas de voir 777 sur les maillots, dans les stades, etc., ou sur le nom du club. On a racheté le Standard pour le Standard, pour ce qu'est le Standard. Donc c'est ça, c'est l'identité du Standard qu'on veut développer, c'est l'histoire du Standard qu'on veut retrouver, etc. etc. Et c'est le point commun entre tous les clubs. Donc c'est vrai que j'ai conscience et on réexplique souvent comment ça fonctionne, mais le fait que tout ça reste dans l'ombre, c'est aussi leur volonté.
D'ailleurs, c'est pas anodin que ce soit vous le CEO non plus, qu'ils aient pris quelqu'un, un enfant un peu du Standard.
Oui, je pense qu'ils cherchaient quelqu'un.
Voilà. Cette cohérence, quoi.
Oui, c'est ça, je pense qu'ils cherchaient quelqu'un de local qui connaissait déjà le club, etc.
Donc, vous êtes là depuis 2011
C'est ça.
2011, oui, donc ça fait
quand même un
petit paquet d'années.
C'est ça, donc vous connaissez bien le club, etc. Mais donc, quand vous écoutez, tout le monde est en face. Rooney Deyla, vous, Pierre Locht, 77 Partners, tout le monde est en face, tout le monde est. Voilà.
Ben, aujourd'hui, ça se passe bien, c'est vrai. Après, il y a encore des choses à améliorer. Est-ce que tout est rose et facile? Non, parce que je dis, la situation du club n'est pas confortable aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Mais aujourd'hui, je suis convaincu de ce qui est fait ces derniers mois. Et on sait qu'on aura encore des périodes difficiles. Comme je dis, l'équipe ne va pas tout gagner, va encore avoir des creux. Mais je pense qu'on va dans la bonne direction et que d'année en année, ce sera mieux.
Bah ça fera plaisir. C'est vrai.
C'est clair, exactement.
Ce qui sort de la bouche de Pierre Locht est aussi. Voilà, vous êtes respecté par les supporters. Vous avez commencé
nous. C'est pas du tout anodin qu'on vous ait choisi comme CEO. Je pense que c'est important pour les supporters et pour la continuité aussi du club.
Voilà, on verra. On verra.
On vous le souhaite en tout cas, Pierre.
C'est très gentil.
On l'a teasé depuis le début. On savait, on va en parler. On est obligé d'en parler.
Ah, c'est pas fini. On allait y aller.
Non, il faut en parler. On est obligé. Évidemment, Pierre, là, vous faites partie de la task force pour le nouveau sélectionneur belge. Où ça en est ? Il y a des rumeurs très,
oui,
très fortes sur un certain Domenico Tedesco.
Parce qu'aujourd'hui, mercredi 14h, heure d'enregistrement, il n'y a encore rien d'officiel.
C'est ça.
Non, tout à fait. Ben, voilà, il y a eu un travail qui a été mis en place avec une task force qui devait procéder en effet au choix d'un nouveau sélectionneur. Et potentiellement aussi d'un nouveau responsable sportif. Je pense que cette task force a fait déjà une bonne partie du travail de sélection, etc. Parce que le but était en effet d'aboutir fin janvier, début février. C'est pas un secret.
Sur le rappel, il y a un rassemblement au mois de mars. Hein.
Oui, voilà, ouais. C'est ça. Il n'y a pas énormément de temps. Donc voilà, après il faut se mettre d'accord avec les différents candidats retenus, voir avec lesquels c'est possible de finaliser un accord ou pas. Et je pense qu'aujourd'hui, on en est dans ce stade-là et que c'est la fédération maintenant qui a la main pour finaliser ça et pour faire les annonces qui devront être faites dans les prochains jours, je l'espère.
Et concernant le profil qui ressort, Domenico Tedesco,
Ça, je ne pouvais pas encore m'exprimer dessus parce que c'est pas aujourd'hui le sélectionneur des Diables Rouges. Donc on verra.
Mais dans les noms.
Le jour où... je le lis beaucoup en effet pour le moment et voilà, mais il serait prématuré pour ma part d'aller m'exprimer sur un nom alors que le boulot n'est pas encore clôturé et le jour où ce sera finalisé, il n'y aura pas de problème pour expliquer le pourquoi de ce choix, de tel ou tel choix.
Mais on peut tourner la question autrement, pourquoi Domenico Tedesco serait le bon profil pour les Diables Rouges?
Oui, ben de nouveau, on va avoir une question parce que c'est vrai que c'est
jeune profil.
Un jeune, ouais, 37
ans.
Oui,
ça c'est sûr. Mais de nouveau, je veux dire, c'est un des profils aujourd'hui qui est cité et qui est sur la table. Mais voilà, il n'y a encore rien de fait, d'acté aujourd'hui. Donc je pense que c'est pas opportun d'aller expliquer le pourquoi ce serait lui et pas lui aujourd'hui parce qu'il n'y a rien qui est signé aujourd'hui pour le nouveau sélectionneur.
Et le directeur technique?
Là aussi, il n'y a rien d'acté, il y a aussi des noms qui sont sortis, etc. Mais voilà, l'objectif, je pense aussi, est d'avoir un bon duo. Donc je pense qu'on espère qu'on l'aura assez vite parce que c'est un rôle important. Je pense que c'est quand même, voilà, peut-être quelque chose qui a manqué dans les derniers mois, directeur technique. Donc aujourd'hui, j'espère qu'en ayant deux personnes,
ils pourront bien distinctes,
ils pourront s'aider. Et ça permettra d'avoir un peu... un volet de contrepoids pour tout simplement prendre la meilleure décision possible pour le diable.
Au niveau de la recherche, je comprends hein, votre position, Pierre, c'est légitime, c'est difficile, puisque l'officialisation, peut-être aussi de vos supérieurs, n'a pas encore été actée, mais le fait d'avoir un choc des générations, un choc des cultures aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Imaginons Tedesco vs Cotteron, il y a une différence d'âge, 37 ans pour l'un, 66 ans pour l'autre, une différence aussi de génération, il y en a un, on va caricaturer, qui découvre peut-être les ordinateurs, et l'autre qui est né avec les ordinateurs. C'est ça que vous cherchez en termes de match?
Ben, de nouveau, je vais rester dans l'absolu au niveau de ma réponse, mais c'est vrai que voilà, là où avant il y avait une seule personne, la volonté qu'il y en ait deux, aujourd'hui que les deux rôles soient bien distincts, et à partir du moment où il y a deux personnes qui vont être amenées à travailler fortement ensemble, je pense que l'idée d'avoir une complémentarité, ça a fait partie des réflexions. Donc on espère que les deux personnes qui seront nommées pourront bien travailler ensemble et pourront au final se compléter pour apporter le meilleur résultat possible à la Belgique.
Et l'Union belge avait communiqué sur les trois joueurs qui allaient être un peu impliqués dans cette nomination. Est-ce que ça a été le cas?
Ça, de nouveau, je laisserai à l'Union belge le soin de communiquer ou pas. La task force a fait son travail comme elle devait le faire. Ça, je trouve très bien fonctionné. Personnellement, je suis très positif par rapport à la manière dont les choses se sont déroulées. Maintenant, après, je vous dis, c'est à la fédération de communiquer par rapport à son sélectionneur et à son directeur sportif, donc je ne pourrais pas en dire plus.
Vous voulez bien prendre le téléphone? On peut les appeler.
On fait
un débat peut-être avec eux.
Je pense que le téléphone sonne beaucoup, en effet, à la fédération pour le moment, ces derniers jours. Et je pense que dès qu'ils pourront apporter les réponses, ils le feront.
Il y a vraiment eu plus de 100 candidats?
Honnêtement, ça, je ne sais pas, parce que le travail de présélection a quand même été fait. Il y a quand même une présélection qui a été faite au moment des discussions par la task force. Donc le nombre exact de candidatures, je pense qu'il y a dû en avoir beaucoup. Après, des candidats sérieux, je ne sais pas combien il y en avait.
On a vu des noms,
Joachim Löw, Elias Boas. C'était rumeur ou c'était envisagé à un moment donné, Pierre?
Je ne vais pas dire qui était là ou pas, parce que voilà, de nouveau, il n'y a pas encore de choix qui est fait aujourd'hui, il n'y a pas encore de sélectionneur. Mais dans les noms qui sont sortis, il y en avait beaucoup qui n'étaient pas exacts.
Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Standard pour cette fin de saison?
L'autre fois, j'avais répondu des victoires. J'ai envie de répéter la même chose. Mais oui, tout simplement de poursuivre, je pense, de pouvoir continuer à grandir au bon rythme, puisque c'est ça notre volonté, c'est de ne pas vouloir précipiter les choses. Donc on veut pouvoir continuer à grandir step by step. Et de nouveau, des succès. Voilà, on va arriver dans la phase déterminante de la saison. Donc j'espère qu'on pourra engranger des succès, bien sûr avec l'équipe première masculine, mais aussi avec le Standard féminin, mais aussi avec le SLC-FC de se maintenir, et aussi avec le futsal, parce que voilà, on aime bien ce projet-là aussi. Donc voilà, c'est la deuxième partie de saison, c'est là que les vérités vont se jouer, donc on espère être successful, comme on dit en anglais, sur un maximum de terrain.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la task force?
de ne plus avoir à se réunir dans les prochaines semaines et de pouvoir clôturer définitivement le job avec, avec les choix qui étaient les premiers. Ça, c'est ce que j'espère, mais voilà.
Normalement, vous serez tranquille après jusqu'à l'après-Coupe du Monde, après 2026. C'est en tout cas l'objectif, Pierre, par rapport à ça.
Oui, je pense que... nouveau sera la fédération à communiquer. Il y a d'abord l'euro, hein. Il y a d'abord l'euro et il y a d'abord les qualifications pour l'euro.
Ouais.
Honnêtement, quand on regarde le système des qualifications, Pierre, aujourd'hui,
aller
à l'euro, ne pas jouer les matchs.
Je suis d'accord, mais voilà, il ne faut pas être présomptueux. Il y a beaucoup de nations qui ratent parfois, de grandes nations qui ratent parfois un grand tournoi. On a beaucoup de qualités, mais voilà, on est la Belgique, on doit rester prudente. Et je prends le premier match en Suède. Si vous regardez les résultats qu'a fait la Suède à domicile en qualification ces dernières années, vous pouvez vous attendre à un match très très compliqué.
Je trouve qu'il y a, juste pour refermer un petit peu cette superbe discussion, je trouve qu'il y a beaucoup de maturité dans comment vous amenez par vos discours sur le Standard. Je trouve qu'il y a vraiment une espèce de step-up qui a été pris.
C'est gentil, mais...
Mais au-delà de vous, dans l'image du club.
Je pense que c'est vraiment la volonté. Moi, j'y tiens beaucoup. Le Standard reste un club bouillant et le sera toujours, et on doit garder ça. Mais au niveau du management du club, au niveau du fonctionnement du club, on doit absolument réussir à gagner en stabilité, parce que je pense que c'est l'instabilité qui a causé beaucoup de problèmes. Et donc, si on arrive à avoir cette stabilité, une forme, soyons fous, de sérénité, dans notre fonctionnement, je pense que ça apportera beaucoup de positifs et beaucoup de résultats. Même ça aura un impact très positif sur l'équipe première, sur son fonctionnement. Donc c'est ce qu'on essaye d'amener, une forme de stabilité et de sérénité dans le fonctionnement du club. Et espérons qu'on puisse continuer.
Très bien, on va clôturer ici.
Est-ce que je peux juste me permettre un petit extra, évidemment, avant de quitter la loge Wilfried Bonneau, Pierre? Après, promis, je vous laisse tranquille avec ça. Vous n'avez plus droit au joker, je ne l'ai pas oublié.
Oui, c'est vrai, je l'avais dit dès le début.
Juste deux petites questions, oui ou non, pas de joker forcément. Un entraîneur confirmé de classe mondiale pour les Diables, c'était trop cher?
Je ne sais pas, non, pas forcément, non.
Très bien. Thierry Henry était le choix numéro 1, voire 2 pour les Diables, oui, non?
Là, je ne peux pas répondre.
Il n'y a plus de joker, Pierre, ça serait temps.
Pierre, je sais, mais je ne suis pas habilité à répondre sur... Je ne peux pas répondre à cette question-là, malheureusement. Non.
Très bien, eh bien, on respecte de par votre position.
Tout à fait, vous avez bien fait. Merci beaucoup, Pierre, de nous avoir accueillis.
Merci à vous, c'était très agréable.
Merci d'avoir joué le jeu aussi.
Merci vraiment, oui.
Désolé de ne pas avoir pu tout répondre, mais
on se reverra dans une semaine.
Oui, exactement, il y aura des mises à jour, en tout cas, qui seront faites.
Tout
merci
tout
beaucoup,
fait.
Jérémy, on se voit la semaine prochaine.
Avec grand plaisir.
On se voit la semaine prochaine et à très vite pour un nouvel épisode d'Eleven Insiders.